Et nous revoilà avec Alain et François pour parler de la sortie en album ce mois-ci du run de Vaughan dans la collection Best Of. Et là, effectivement, pour une fois, ça porte bien son titre. C'est vraiment, en tout cas à mon goût, et François ne dira pas le contraire, un des meilleurs runs sur cette série Ultimate X-Men. Alors, mais c'est quoi Ultimate X-Men, Alain ?
Je te corrige un petit peu parce que c'est Marvel Deluxe, la collection, donc pour les recherches de nos prochaines recherches de nos lecteurs, ce sera peut-être plus simple de le savoir. C'est la collection Marvel Deluxe, un jeu dangereux, le titre de l'album, et ça sort demain en plus, le 12 janvier. Et donc Ultimate X-Men, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est une tentative de Marvel à la fin des années 90, début des années 2000, de capitaliser sur le succès des films Spider-Man et X-Men en lançant des séries hors continuité, en tout cas avec une nouvelle continuité, c'est-à-dire des séries où on n'a pas besoin d'avoir lu les 300 numéros d'Uncanny X-Men qui sont sortis avant. On repart à zéro en étant le plus clair, le plus simple possible au niveau des intrigues et tout ça. Donc ce qui passe par notamment des histoires décompressées sur 6 numéros. Ou 8 ou 4, Ultimate X-Men est quand même un gros succès, notamment en démarrant avec le scénariste Mark Millar et en continuant avec le scénariste Brian Michael Bendis. Alors, contrairement à Ultimate Spider-Man, qui est resté assez fidèle au pitch de départ, ou en tout cas à l'histoire telle qu'on la connaît, Ultimate X-Men s'en démarque très rapidement avec beaucoup de d'idées nouvelles, notamment entre les relations entre les personnages, même si on reste quand même avec certaines choses qui restent immuables, notamment la rivalité Cyclops-Wolverine et leur triangle amoureux avec Jean Grey. Mais bon, toujours est-il que Vaughan arrive après Millar et Bendis et signe assurément, effectivement, le meilleur run de la série.
C'est peut-être aussi un des runs où on a le plus de renouvellement dans les personnages. Parce que Millar et Bendis, Millar a créé la série, donc il tourne sur un casting restreint, mais c'est un peu logique. Bendis, sur son run, va pas forcément développer non plus le casting de nouveau, alors que Vaughan y va carrément.
Voilà, alors en fait, ce qu'il faut dire, c'est que Bendis, lui, son run va se dérouler en deux temps, avec un run où les X-Men n'apparaissent quasiment jamais, où il y a juste Wolverine et Spider-Man qui font équipe. Et le run, le gros morceau suivant, c'est les New Mutants, avec l'apparition notamment d'Havok, le frère de Cyclope, que d'ailleurs Vaughan va aussi réutiliser dans ce run. Alors oui, de toute façon, Vaughan va énormément piocher dans la galerie de portraits des X-Men, classiques, et revisiter pas mal de mutants, comme Northstar, Longshot, et j'en oublie d'autres, Sinister, donc.
Dazzler
également, oui, même si c'est pas lui qui l'a introduit, en tout cas, il a mis en avant.
Parce que le run Nouveau Mutant n'est pas de lui, mais c'est vrai que tous les personnages, c'est vraiment un prélude à ce que va faire Vaughan, où il va vraiment réutiliser ces persos, dont on ne sait même pas s'il était prévu de les utiliser autant, d'ailleurs, au moment où ils ont été créés.
Ce qu'il faut voir, et on le dira peut-être plus tard à la fin, c'est que Vaughan, il écrit en même temps aussi Runaways, donc il est quand même très au fait de l'écriture de jeunes personnages. Et donc, ça se ressent dans Ultimate X-Men, puisque c'est effectivement, ce sont les plus jeunes, les étudiants de Charles Xavier, qui sont souvent mis en avant. Alors, Vaughan, en tout cas, commence son run par, on l'a dit, un arc, ou en tout cas, un drame, puisque sous Bendis, le fauve est mort. Donc, Vaughan, à charge de Vaughan de gérer la suite. Donc, il reprend un peu le concept qu'avait fait Claremont sur Tornade, avec les cheveux coupés façon punk, sauf là c'est moins punk, mais en tout cas c'est des cheveux plus courts pour montrer à quel point elle est touchée par ce décès. Et on passe en embrayant ensuite directement sur le vif de l'histoire, avec la chasse à un vilain, Mister Sinister. Alors, chez les X-Men classiques, c'est un vilain connu, reconnu avec une certaine prestance. Chez Vaughan, c'est un schizophrène cinglé, limite minable, qui suit une voie imaginaire, en tout cas le croit-on, celle d'Apocalypse. Alors, il se met en tête de tuer divers mutants, et notamment, en tout cas, une tentative de main sur North Star, et c'est ce qui amènera les X-Men à le pourchasser. Donc, relecture d'un vilain complètement, vraiment à l'opposé de ce qu'on connaissait, mais relecture vraiment intéressante, notamment enfin, la scène finale de cet arc où on retrouve Sinister tout seul dans sa cellule avec une certaine révélation finale et des dialogues assez enfin, qui sont franchement des petites perles quoi. Donc ensuite on embraye directement sur un second arc qui est Cry Wolf, dessiné par Andy Kubert, le premier étant dessiné par Brandon Peterson, je n'allais pas préciser. Donc en tout cas graphiquement on va le dire tout de suite, de bout en bout c'est génial, hein. Il y a Brandon Peterson, mais Brandon Peterson qui sait encore à peu près bien dessiner. Andy Kubert, donc on ne présente plus un des frères Kubert, spécialiste des X-Men, aux anatomies assez spéciales, mais qui donne vraiment une vraie pêche à tout ça. Suivront ensuite Stuart Timonen, qui fera le gros des épisodes suivants, et un épisode one-shot de Steve Dillon. Donc ça s'est évacué. Cry Wolf, donc, l'arc suivant, nous compte la rencontre entre Rogue et un autre personnage qu'on avait aperçu à peine jusque-là, Gambit. Donc, personnage aussi des X-Men classiques, mais celui-là beaucoup moins revisité. On reste vraiment dans le voleur cajun à la morale plutôt trouble, même si là, il veut vraiment aider Rogue à contrôler ses pouvoirs, puisque celle-ci a des mal à les contrôler. Donc, il l'enlève contre son gré pour la présenter à Fenris, un couple de mutants, dirigeant d'une corporation dont le but, en tout cas, c'est ce qu'ils prétendent, est d'aider les mutants, notamment par le biais économique. Une vision plutôt intéressante du problème mutant, en tout cas, par Vaughan, d'autant que à la base, les Fenris dans les X-Men classiques n'ont pas du tout ce leitmotiv. Donc c'est plutôt même dommage qu'on n'ait pas continué là-dessus, parce qu'il y avait quelque chose d'intéressant à faire. Enfin, toujours est-il qu'à la fin de cet arc, Rogue et Gambit, enfin Rogue quitte les X-Men et elle part avec Gambit, et ce qui met un peu les X-Men dans l'embarras et dans le désarroi.
Est-ce que l'annual qu'avait écrit Vaughan est compris dans ce Deluxe?
Alors apparemment pas, j'ai vérifié.
Non,
mais c'est vraiment du porte-malloc là.
Ouais, effectivement, c'est... il y a quand même 20 épisodes à caser, hein. C'est vrai que bon, pour le coup, c'est un peu délicat, mais on va y venir aussi à cet annual qui intervient un peu plus tard dans la série.
Parce qu'il était bien écrit par Vaughan.
Il est tout à fait écrit par Vaughan, a priori même destiné à être intégré dans la série en elle-même, mais donc apparemment publié en annual pour... tout simplement liquider les épisodes de Vaughan pour arriver plus vite à Kirkman apparemment. Alors je continue aussi sur le petit défilé des arcs, parce qu'on arrive à The Most Dangerous Game, l'arrivée de Stuart Timonen au dessin.
Oh.
Oui, voilà François, tout à fait, tu as bien raison. Alors Timonen, vous ne me présente plus, en tout cas c'est un dessinateur d'une rare qualité qui il traîne plus ou moins, c'est l'époque où il traîne plus ou moins son nouveau style. Il passe d'un style très réaliste et ombré, vachement ombré, à un style plus clair, un peu plus cartoony, un peu plus caricatural. C'est aussi bien, même mieux, en tout cas. Et c'est en tout cas très, très à propos, ce choix de dessinateur, puisque c'est cet arc-ci qui voit arriver, enfin, qui nous voit introduire le personnage de Longshot. L'arc est très drôle. Enfin, il y a beaucoup de références sur... sur la télé-réalité, sur la télé-business et le télé-spectacle, puisque Longshot, dans l'univers X-Men classique, c'est un mutant d'une autre dimension où la télé règne en maître et où Mojo, un vilain dictateur, producteur d'émissions, tient son peuple sous sous la coupe ben, des programmes télé. Là, il n'y a pas d'histoire de dimension, mais Mojo reste un albinos assez gras qui prend en chasse le pauvre Longshot sur une île après appelé Krakoa, pardon, c'est dur à dire. Plein de clins d'œil d'ailleurs à ce niveau-là dans cet arc. Mojo se voit affublé d'un nom, se voit appelé Mojo Adams, en référence à Arthur Adams qui a créé graphiquement le personnage de Longshot dans l'univers classique. D'ailleurs, Longshot se voit affublé lui aussi d'un alias, c'est Arthur Santino. Alors Arthur pour Arthur Adams, évidemment, et Santino qui n'est autre que l'anagramme de Anno Santi, la scénariste créatrice aussi du Longshot original. Bah, là aussi, enfin, une petite pépite aussi, au niveau de l'écriture des dialogues, c'est Vaughan, quoi, c'est génial, quoi, tout simplement.
Personnage de Longshot qui aurait pu avoir un potentiel plus important que finalement ce qu'il aura dans la série.
Voilà, mais on le retrouvera pour l'arc final, où il jouera quand même un rôle important. Donc, suivra donc le one-shot de Steve Dillon, dont j'ai parlé tout à l'heure, où tout simplement le professeur Xavier se retrouve pris dans une prise d'otage dans une banque braquée par un mutant. C'est la seule fois où Vaughan va utiliser une création personnelle. Bon, c'est peut-être pas non plus la meilleure idée, mais le mutant n'a pas d'équivalent dans les héros classiques, mais bon, au moins il tente l'affaire, ce qui est toujours aussi intéressant à voir. Et voilà aussi, il y a une sens du dialogue phénoménal. La phrase finale de l'épisode, c'est le professeur Xavier qui dit tout simplement que les hommes sont tous, l'humanité entière et ses étudiants, et le monde entier et sa classe, c'est qui démontre toute sa philosophie, en tout cas, en quelques lignes, en quelques échanges. Et donc, ensuite, on arrive à l'arc suivant, qui est Shock and Awe, qui est un arc en deux parties, qui voit Wolverine et Storm faire équipe ensemble contre Lady Deathstrike, une version revisitée de Lady Deathstrike. On apprend que les deux, Storm et Wolverine, connaissaient le personnage avant. Et donc, c'est un épisode en deux parties. Alors, vraisemblablement, comme je le disais donc, l'annual entre où on voyait Rogue et Gambit seul aurait dû être la suite. Donc deux épisodes sur Storm et Wolverine et deux épisodes sur Gambit et Rogue. Et visiblement, ça a été compressé en un annual dessiné par Tom Ranney pour arriver plus vite à Magnetic North, l'arc final de Brian Vaughan, où toujours dessiné par Stuart Immonen, où on voit. On assiste au plan machiavélique, il faut bien le dire. C'est vraiment une horlogerie précise que met en place Magneto pour pouvoir se libérer de la prison où il est séquestré, une prison en plastique, exactement comme on voit dans le film. D'ailleurs, c'est vraiment une des réussites de Vaughan, c'est d'avoir réussi à mêler les X-Men classiques, mêler des situations du film, tout en restant ouvert à d'autres idées originales. Donc c'est vraiment un melting pot de tout ça qui rend vraiment la série accessible à un lectorat nouveau. Donc c'est vrai que sur ce coup-là, c'est une réussite complète.
En plus, cet arc aurait très bien pu être une conclusion complète à la série. Tant on a un retour sur ce qui avait été fait dans le premier arc de Millar, avec quand même, on voit toute l'évolution par rapport justement à toute l'intégration des nouveaux qui prennent aussi une action dans la série. Et c'est vrai que là-dessus, il y a vraiment quelque chose en plus qui intervient dans ce cadre-là, avec ce nouveau casting de personnages qui s'ajoute. Voilà. Donc, bon, graphiquement, on l'a dit, c'est très bon aussi. Il n'y a quand même pas eu de tâcherons sur la période. Les arcs, même s'il y en a quelques-uns qui peuvent paraître un peu en dessous, sont quand même tous de grande qualité. Et c'est vrai que c'est, je pense, la période où la série a été la plus dynamique et où on a vu le plus d'innovation se mettre en place. Voilà, donc je ne sais pas si tu avais quelque chose de plus précis à dire, François.
Oui, alors je voulais dire qu'en fait la grande force, outre les dessinateurs de ce run, c'est que je crois que Vaughan est peut-être un des seuls à avoir fait ce que la ligne Ultimate était prévue pour faire, c'était redonner une nouvelle vision des personnages et des situations qu'on connaissait déjà, et en donner une nouvelle interprétation, voire des nouveaux concepts. Et c'est exactement ce qu'il fait avec Sinistre, avec Mojo et Longshot, et tout ça est particulièrement réussi, et c'est ça qui en fait la lecture excitante, c'est-à-dire que par des choses qu'on connaît déjà, elles sont réinterprétées de manière à ce qu'on ne soit pas perdu, mais qu'elles soient quand même nouvelles. Et ça, c'est très très fort. Au-delà de ça, effectivement, il y a Peterson qui n'était pas encore parti dans ces trucs de texture bizarre d'ordi. Kubert, oui, qui était un peu en automatique, mais c'est toujours meilleur que la plupart de ce qu'on voit souvent. Et surtout Limonen qui est traîné, ce style qui a fait le succès, oh mon Dieu, de ce chef-d'œuvre qui est Next Wave, et qui ensuite est parti vers d'autres belles aventures.
Alain, quelque chose à rajouter par rapport à ça, à part que c'est bon et qu'il faut le lire?
Eh ben non, et en plus, effectivement, c'est bon et il faut le lire, quoi. C'est un jeu dangereux chez Panini dans la collection Marvel Deluxe, ça sort demain, a priori. Et franchement, oui, c'est ce qui s'est fait de mieux sur Ultimate X-Men. Effectivement, Vaughan réussit sa mission. C'est pour les nouveaux lecteurs, s'il y a des lecteurs, enfin des auditeurs qui veulent se lancer dans les X-Men, bah, y a pas de raison, ils vont retrouver par exemple des situations du film, ils vont retrouver des situations des X-Men classiques, ils vont retrouver des nouvelles situations, il y a de tout, c'est bien, il y a un rythme incroyable, il y a des dialogues marrants et bien vus et bien sentis, le dernier arc au niveau du rythme est sensationnel, tout est bon dans le cochon, mais là tout est bon dans Ultimate X-Men, jeu dangereux de Brian Vaughan.